Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, à votre santé, on prend soin de votre santé tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM, mais on prend soin également aussi de votre bonheur, le bonheur au travail. On en parle en ce début d'année, parce que c'est important. Vous êtes peut-être en vacances et vous allez peut-être rentrer la semaine prochaine avec, qui sait, la boule au ventre ou pas, parce qu'il y a ceux qui aiment leur travail, pour qui se lever le matin et aller bosser, c'est un plaisir, et puis il y a ceux pour qui aller au travail, il faut traîner des pieds, on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va me tomber encore dessus et pour qui travailler, c'est pas toujours une partie de plaisir. Mon invité s'appelle Samuel Métias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole et fondateur d'un collectif qui s'appelle Happytech. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Happytech?
Alors, la Happytech, comme vous venez de le dire, c'est...
La Happytech.
Ouais. Voilà, donc c'est un collectif effectivement et un mouvement qui aujourd'hui d'ailleurs se porte à l'international, qui permet de regrouper les solutions innovantes au service du bien-être au travail. Voilà, donc c'est une boîte à outils de solutions innovantes, souvent des startups, mais pas que, qui sont là pour concrétiser les démarches de bien-être au sein des entreprises.
Le bien-être en entreprise, moi je croyais qu'on allait travailler pour gagner sa vie, figurez-vous.
Alors,
que finalement, on n'allait pas au boulot pour être heureux, on va au boulot parce qu'il faut vivre et qu'il faut payer les factures.
Alors sans doute, mais ça change de plus en plus, on a notamment dans la génération qu'on appelle des millennials, par exemple les millennials aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, les talents de demain, ceux qui font vivre les entreprises de demain, et d'aujourd'hui d'ailleurs déjà, ces millennials aujourd'hui, le bien-être, le sens du travail, c'est avant le salaire, donc c'est avant de payer les factures, je veux d'abord m'épanouir dans mon travail, parce que c'est vrai qu'on passe plus de temps parfois au travail qu'à la maison. Hein.
Un tiers, oui, ça c'est sûr. Ouais, du lundi au vendredi, souvent, oui, on passe plus de temps au boulot ou dans les transports qu'à la maison. Ça fait partie des sujets donc, qu'on voit émerger, des thématiques qui sont de plus en plus en vogue dans les RH, aujourd'hui, service des relations humaines. Il y a même des métiers, il y a même des, alors, je ne sais pas si on appelle ça des directeurs, mais il y a même au sein des entreprises, de certaines entreprises, de boîtes, des gens qui sont chargés du bonheur en entreprise.
Eh oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les CHO en anglais, les Chief Happiness Officer. Donc, alors, soit ils existent sous cette forme-là, soit pas. C'est-à-dire que parfois, c'est des gens qui sont responsables de la QVT, de la qualité de vie au travail, de la RSE.
Qu'est-ce qu'il y a, les acronymes là?
Alors, les acronymes, QVT, c'est la qualité de vie au travail.
QVT.
Voilà. En fait, c'est souvent des gens qui sont soit dans les services généraux, c'est-à-dire qui s'occupent des bâtiments, soit effectivement chez les RH, soit qui vont avoir un poste dédié au bien-être, mais ils vont tous avoir de plus en plus une dimension de s'occuper du bonheur, du bien-être des salariés au sein de l'entreprise. Parce que ça a un impact de plus en plus important et un impact économique dont les entreprises petit à petit se rendent de plus en plus compte aussi.
Parce que c'était effectivement, il y a des indicateurs dans les entreprises, notamment l'absentéisme.
C'est ça.
Qui coûte cher aux entreprises, les arrêts maladie.
Par exemple, en fait, c'est très difficile d'évaluer l'impact économique du bien-être, mais il y a trois... Nous, on a fait une étude, notamment avec la Startup Commit, on a fait une étude, il y a trois éléments factuels qui sont quantifiables économiquement. C'est effectivement l'absentéisme. Quand on est bien au travail, on est moins absent. C'est la fidélité aussi. Quand on est bien dans son job, on y reste plus longtemps. Et puis, c'est la productivité. Le fait qu'on sur un même laps de temps, on va produire plus. Et ça se quantifie. Et pour vous donner une idée un petit peu de la valeur de ça, aujourd'hui, sur une entreprise de 500 salariés en France, on estime que le bien-être en travail, ça fait économiser 1 million d'euros par an. Comment ? En réduisant l'absentéisme, je ne sais pas si vous le savez, mais l'absentéisme en France, c'est 16 jours en moyenne. 8 jours pour raison, disons...
Alors nous, on le calcule en pourcentage. On dit, cette année, on doit être en dessous de 5%. Quoi.
C'est voilà. Ça, mais globalement...
En gros, voilà, on doit avoir sur le quota, en équivalent temps plein, on doit être en dessous des 5%. Voilà, vous voyez, donc c'est des chiffres.
Mais imaginez si vous réduisez seulement 3 jours d'absence par salarié l'absentéisme, si vous réduisez de 2% seulement l'attrition, donc le turnover. Et si vous augmentez de seulement 5% la productivité, là où toutes les études parlent de 30, 31, 32, 33% de productivité en plus, ça, c'est des chiffres relativement conservateurs en réalité, ça représente 1 million d'euros d'économie sur un an pour une entreprise de 500 salariés.
D'accord, ce qui veut dire que c'est pas un gadget. Le bonheur au travail, ça fait gagner des sous. Parce que de toute façon, finalement, pour un chef d'entreprise, je sais pas si le bonheur au travail, c'est ce qu'il recherche avant tout. Il veut d'abord gagner de l'argent, vous voyez.
C'est ça. Mais le bonheur au travail, c'est d'abord la valorisation de l'être humain, avant tout. C'est d'abord l'être humain, c'est remettre l'être humain au centre, et ça c'est clé. Mais pour les entreprises qui ont une vocation économique importante, évidemment, et pour ces dirigeants d'entreprise, c'est bien aussi qu'ils prennent conscience, et c'est assez peu de dirigeants d'entreprise en réalité ont pris conscience de l'impact économique extrêmement important du bien-être au travail. Et donc le signifier, le quantifier autant que possible, c'est important. Et nous, on sert aussi à ça, à aider à cette prise de conscience du marché, de l'impact pour l'être humain, et pour la vie économique de l'entreprise, du
donc
bien-être.
Tout le monde a y gagné à ce que on soit heureux en entreprise.
Alors heureux.
Qu'est-ce qu'on emploie comme terme?
Alors je vais vous dire, heureux c'est peut-être pas le bon terme. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme bien-être. C'est se sentir bien. Heureux c'est plus subjectif. Même si effectivement on a décidé d'appeler le collectif Happy Tech qui est la traduction en anglais d'heureux et pas de bien-être, ou en anglais c'est plutôt wellness. Donc c'est pas la well tech, c'est vraiment la Happy Tech, parce qu'on veut tendre vers le bonheur, mais on va commencer par le bien-être.
Est-ce que c'est un esprit start-upper, ça? C'est encore une nouvelle idée de ces jeunes là qui travaillent dans des sociétés avec des canapés, des baby-foot, un distributeur de Coca-Cola, une machine Nespresso avec des dosettes, un changement de vitesse. Vous voyez tous ces trucs un peu start-up, comme on les imagine.
Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que c'est pas que ça, parce que le bien-être, les leviers du bien-être ne viennent pas que de ça, et je vais vous l'expliquer. Et puis après, je peux peut-être aussi vous raconter comment c'est né. Ce qui est né, c'est vrai, de l'esprit start-up, mais pas tel que forcément on l'entend au départ. En fait, l'idée de la Happy Tech, c'est d'utiliser, ça a beaucoup été inspiré par une étude de Talentsoft qui s'appelle le baromètre des DRH, qui inscrit trois leviers existants pour amener du bien-être. Dans ces trois leviers, il y a effectivement l'espace de travail. Donc l'espace de travail, c'est,
donc
le
c'est les locaux,
ouais, etc. Évidemment qu'avoir un espace de travail de qualité,
l'espace sieste,
c'est exactement, c'est super, c'est valorisant. Mais j'ai envie de vous dire, il y a plus important que ça encore, c'est les relations entre les gens. Parce que si vous entendez avec votre manager, avec vos collègues, avec les gens avec qui vous travaillez, vous pouvez travailler dans un garage et fonder une multinationale. Ça, c'est vu. Alors que si vous entendez pas avec vos collègues, avec votre manager, avec les gens avec qui vous travaillez, vous pouvez avoir la cantine gratuite, le baby-foot, les sodas offerts et des locaux magnifiques, vous n'aurez pas envie d'aller au travail le matin. Donc ce qui est plus important,
ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement les gens sont heureux d'abord au travail parce qu'ils ont des collègues qui sont contents d'aller les retrouver tous les jours.
C'est exactement, c'est d'abord les liens humains et l'être humain qui est clé. Par contre, avoir ces liens humains dans des locaux de qualité, évidemment c'est un
plus. Mieux. Ouais.
Voilà. Et il y a un troisième levier. C'est ce qu'on appelle le digital, la tech. Pourquoi la tech, c'est un vrai levier? Parce que quand on regarde le marché du bien-être au travail, vous avez la sophrologie, vous avez le coaching, vous avez tout ça, c'est super, moi j'ai rien contre ça, j'adore.
Les massages à la place.
Voilà, mais si vous avez un outil technologique, c'est quelque chose de concret que vous avez entre les mains.
J'ai l'impression que plus on va vers la digitalisation de la société, plus vous nous faites croire qu'on est heureux. Alors, en tout cas, parce que pour beaucoup, là, justement, c'est opposable. On va dire que plus le monde devient digital, moins les qualités des gens sont réelles, moins les gens sont heureux. Et d'un autre côté, on se dit, tiens, pour faire passer la pilule, on va vous vendre du bonheur au travail, des... Alors, est-ce que c'est pas le côté humain, on va dire, de la digitalisation?
Moi, j'ai une vision inverse. En fait, quand t'es né, d'abord, est né Commit avant de naître la Happy Tech, mais quand t'es né Commit, moi, un des constats qui m'a poussé à lancer cette start-up et à m'engager dans ce terrain-là, ça a été ce fameux effet métro. C'est-à-dire de dire qu'on est, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous êtes dans le métro, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes le nez sur le téléphone, et puis là, vous levez le nez, vous vous rendez compte que vous connaissiez quelqu'un pendant tout le trajet, vous n'êtes pas parlé. Moi, à ce moment-là, au moment où il y a un an, quand je décide de lancer ces commits, je suis à la fois élu dans ma mairie et je travaille chez Microsoft, et je vois le gap entre les deux, c'est-à-dire des...
Vous avez plein de mots...
L'écart. pardon.
Les gens du marketing, ça.
C'est ça. Mais pas que. C'est les anglicismes qui viennent du fait de travailler dans une société américaine.
Alors vous voyez le gap.
Voilà, je vois l'écart entre les deux, et dans cet écart, je me dis, c'est incroyable. Vous savez, dans une mairie, dans une collectivité, les gens, les agents, ils s'engagent pas parce qu'ils sont fonctionnaires, ils s'engagent parce qu'ils ont une vocation. Et cette vocation-là, ils veulent la défendre, ils veulent la servir. Et au moment où ils veulent la servir, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les moyens, en particulier technologique, mais pas que, je les sens fanés, tristes. Ils ne sont pas forcément heureux dans leur engagement, ce qui moi, m'a beaucoup fait souffrir. Et de l'autre côté, une entreprise américaine, avec une vocation commerciale, avec une vraie politique bien-être, où là, on sent de l'enthousiasme, on sent des gens heureux. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Ma première idée, ça a été effectivement la tech. Et moi, je crois beaucoup en ce qu'on appelle en anglais la tech for good, la technologie pour le bien, pour l'être humain. Moi, je crois en la technologie qui accomplit l'être humain, qui le complète, pas qui le combat. Et c'est de ça qu'est venue l'idée de dire comment est-ce que la technologie, en particulier pour moi une avancée technologique qui est l'intelligence artificielle, peut servir l'être humain. Et on a lancé d'abord cette start-up qui s'appelle Commit, qui fait de l'intelligence artificielle au service des relations humaines pour créer des relations et pour organiser des activités entre les gens. Et puis quand on a lancé Commit et qu'on a commencé à avancer, c'est là que l'idée de la Happy Tech va émerger. Quand, en fait, on va aller à Vivatech de l'année dernière, le grand salon des start-up français. Et on est retenu par Manpower sur leur stand. Et là, on nous dit, on avait 5 mois, une des plus jeunes start-up du salon. On dit, ce serait quand même vachement bien que vous soyez dans la French Tech. Donc, quand vous voulez aller dans la French Tech.
Ça fait vachement de tech, hein.
C'est le label du gouvernement sur le sujet.
Alors, tech, quand on est dans la French Tech.
Et alors là, quand on est dans la French Tech, je ne sais pas si vous le savez, il y aura encore beaucoup de tech.
Moi, je ne le sais pas, franchement. Mais avant la tech.
Avant la tech, oui. En fait, on vous dit, il faut que vous vous inscriviez dans ce label. Et pour s'inscrire dans ce label, il faut vous rapprocher d'un organisme. Et c'est très français. Vous devez remplir un dossier qui est énorme en vous disant, bah voilà, vous avez ce dossier, vous devez remplir et vous devez cocher des cases. Et là, on vous dit dans quelle catégorie vous êtes. Et là, vous avez toutes les catégories en tech possibles. FinTech, HealthTech, AssureTech, MerckTech, toutes les FoodTech, tout ce qui est possible. Et là, on dit, ouais, c'est vachement bien. Tout ça, nous on est dans la tech, mais nous on est dans le bien-être. Où est le bien-être? Et là on dit, bah ça n'existe pas. Et l'esprit start-up, comme on le dit, c'est plutôt là, c'est-à-dire quand ça n'existe pas, on le crée. Ouais. Et donc c'est là qu'on a décidé de créer la Happy Tech. Donc on a d'abord déposé le label, on a agrégé sur Vivatech toute une série de start-up qui ont dit, nous aussi on est dans le bien-être, on veut être Happy Tech, on veut être Happy Tech. Et c'est comme ça que s'est fondé ce collectif qui s'est ensuite transformé en association, puis qui a rayonné à l'international avec un comité international et qui fait qu'aujourd'hui, bah on a cette boîte à outils de solutions labellisées qui sont là pour concrétiser.
Voilà, vous êtes une boîte à outils. Alors ça existe dans les grandes entreprises, hein, puisqu'aujourd'hui il y a des budgets pour ça, donc il y a des budgets à dépenser. Il y a des gens qui réfléchissent, qu'est-ce qu'on va faire cette année pour être bien en entreprise, enfin, comme vous dites, Sofro, le baby-foot, tous les clichés y passent.
C'est ça.
Mais vous êtes une boîte à outils pour aller au-delà de ça.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les budgets vont passer dans de l'équipement ou dans les locaux. Au sens large, on va dire. Nous, on dit non, remettez l'humain au centre. Repensez à l'être humain. Qu'est-ce qui va pouvoir valoriser l'être humain? Comment est-ce qu'on va mesurer le bien-être au sein de l'entreprise? Comment est-ce qu'on va créer des liens entre eux? Comment est-ce qu'on va valoriser les lieux? Parce que vous pouvez avoir une cafétéria qui est magnifique, toute neuve, etc. Et personne n'y va.
Comme à Beurre FM, vous avez vu la cafette tout à l'heure. Je vous ai laissé à la cafette. Et là, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'elle est belle, votre cafétéria.
Ah là là, on y est resté longtemps, d'ailleurs.
C'est parce que vous étiez très en avance.
Mais effectivement, c'est très important de savoir valoriser les lieux de qualité et pas seulement de les faire, mais de s'assurer qu'il y a de la vie. Mmh. Et donc ramener de la vie, remettre l'humain, repenser l'humain au centre, bah c'est ça les idées des outils de la Happy Tech.
Mais comment est-ce que justement la relation humaine elle peut être aidée par la technologie? Alors parce que par définition, l'humain c'est humain. Vous voyez, c'est presque inné.
Alors, je vais vous donner des exemples.
Comme l'empathie, vous voyez, toutes ces choses-là.
Je vais vous donner des exemples d'outils qui va vous permettre un petit peu de comprendre comment on peut y procéder. Sur ce que vous dites, en particulier les relations humaines, il y a Commit. Commit, par exemple, c'est une application qui va organiser des activités. Parce que si vous voulez faire en sorte que des gens créent des relations entre eux, c'est pas compliqué, il faut qu'ils fassent des choses ensemble. Donc il faut qu'ils fassent des activités ensemble. Donc l'idée de Commit, c'est de dire, plutôt que de faire toujours des activités avec le même groupe de personnes au sein d'une entreprise, on va s'ouvrir et aller faire des activités avec des gens avec qui a priori on a des affinités, grâce à de l'intelligence artificielle on va le détecter, mais avec qui vous n'avez pas l'occasion de faire ces activités traditionnellement. Et donc l'outil va vous permettre de vous mélanger pour faire des activités ensemble, sans que vous connaissiez forcément, et donc élargir votre champ de connaissances, le nombre de collègues que vous avez sur votre lieu de travail.
Mais est-ce que ça veut dire que votre outil fonctionne comme un réseau social d'entreprise?
Alors c'est pas un réseau social d'entreprise, c'est plus disruptif que ça puisque c'est proactif. Je vous donne l'exemple, vous dites je vais aller déjeuner vendredi avec des gens de Beurre FM. Plutôt que d'aller toujours avec la petite équipe de l'émission, Commit va vous dire pour déjeuner vendredi, j'ai trouvé 4 ou 5 autres personnes dans l'entreprise avec qui vous ne travaillez pas forcément au quotidien, mais avec qui vous avez des affinités a priori. Et je vous ai d'ailleurs réservé le restaurant et je vous ai envoyé une invitation dans votre calendrier. Vous n'avez plus à vous occuper de la logistique, vous n'avez plus à vous occuper de tout ce qui est embêtant dans l'organisation d'une activité. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur les personnes que vous allez découvrir, avec qui vous allez tisser des liens et qui demain vont vous permettre d'élargir votre réseau, de tisser plus de liens et donc d'être encore plus heureux de venir au travail.
Bien. C'est une souvent il y a des bonnes intentions en début d'année, on se dit tiens, peut-être qu'on va être plus heureux au travail. J'aimerais bien que vous nous disiez si vous êtes vous-même heureux au travail, si vous mettez des choses en place pour tisser ces liens. 01 53 48 3000 pour partager vos expériences. Un retour d'expérience, c'est important. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et pour commencer l'année, on parle du bonheur au travail. Alors, on parle toujours de ce qui va pas. On a décidé de dire, non, ça marche. D'ailleurs, dans la majorité des entreprises, ça se passe bien. Faut quand même le dire. Mon invité s'appelle Samuel Métias. Il est porte-parole et fondateur du collectif Happy Tech. Donc, rappelez-nous, pour ceux qui prennent l'émission en cours, ce qu'est Happy Tech.
Alors, Happy Tech, c'est effectivement un collectif d'entreprises et avec beaucoup de start-up qui proposent des solutions au service du bien-être au travail.
Voilà, vous êtes un groupe de start-up. Start-up, vous êtes sur quel secteur, toutes les start-up?
Alors, il y a de tout, enfin, tout ce qui va être autour du bien-être. Et donc, on va avoir ceux qui vont chercher à mesurer, ceux qui vont chercher à créer de l'activité et du lien entre les personnes, ceux qui vont être sur la santé. On a vraiment quelque chose de large. C'est une boîte à outils.
Bon, est-ce que le bonheur a sa place en entreprise? Est-ce que c'est deux mots qui vont ensemble?
Ah non, c'est évident.
Heureux et travail, tiens.
C'est évident que le bonheur a sa place en entreprise. C'est ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs du sens. On est efficace et on est productif réellement que quand on aime son job. Donc c'est absolument clé et l'impact, comme je le disais, l'impact économique est évident.
On peut être productif quand on est payé à la commission, aussi, non?
Alors on peut être productif quand on est payé à la commission, c'est une autre forme de motivation.
Mais il y a l'argent, vous voyez, la motivation financière, c'est quand même une carotte.
Mais de moins en moins. De moins en moins, parce que le sens et l'amour du travail, j'ai envie de dire, sont de plus en plus importants, en particulier dans les jeunes générations où c'est devenu, on le voit dans les statistiques, avant même la rémunération.
C'est ce qu'on dit. C'est ce que les études disent des nouvelles générations, que l'impact des rémunérations est moins important sur les nouvelles générations.
C'est ça. Dans leur choix, et aujourd'hui dans un choix de carrière, dans un choix d'entreprise, un jeune talentueux sorti de l'école va mettre plus de considération dans son choix sur le sens du job et sur la qualité du job et l'écho que ça fait en lui, plus encore que la rémunération. Même si la rémunération est toujours importante. Hein. Mais on le voit dans le monde des startups, c'est particulièrement
mais
vrai.
Mais est-ce que c'est pas des gens qui gagnent déjà bien leur vie, qui disent ouais, maintenant je voudrais être heureux. Vous voyez, c'est le genre de truc où on est déjà riche maintenant, voilà.
Je ne crois pas parce que là pour le coup, je pense que l'exemple des startups est frappant. Moi aujourd'hui dans les startups et dans la Happy Tech, les gens qui travaillent sont des jeunes qui pourraient pour la grande majorité d'entre eux avoir un meilleur salaire ailleurs et qui font le choix de travailler dans des startups pour le sens qu'on peut apporter à leur job et pour la qualité de l'équipe et les relations qu'on peut avoir. Et ça, on le voit bien dans nos recrutements au quotidien aujourd'hui. Donc je pense pas qu'il faille attendre d'être riche pour s'intéresser au bonheur.
Quand je dis riche, c'est que quand on est bien payé, finalement, voilà, on peut s'occuper du reste. Mais quand on est en train de tirer le diable par la queue tous les mois parce qu'on n'y arrive pas, on est en train de se dire, ouais, 150 euros finalement d'augmentation, c'est meilleur à prendre que d'être heureux ou d'avoir un baby-foot.
Et pourtant, le nombre de salariés de grandes entreprises plutôt bien payées qui démissionnent pour fonder leur boîte, leur start-up, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et donc ne pas être payés pendant des mois, voire des années, il y en a de plus en plus. Quand je regarde moi, ma génération, mais j'ai encore rencontré un copain de lycée la semaine dernière qui lance sa start-up, qui était extrêmement bien payé dans la finance et qui a tout lâché pour se mettre au chômage et pour monter sa structure parce qu'il croit en son projet.
On n'a pas de recul trop quand même. Il faut attendre de savoir comment ces gens seront dans 10 ans.
C'est vrai, il faut attendre. Mais aujourd'hui, il y a un terreau d'innovation en France qui est absolument exceptionnel. Il y a un terreau pour les startups et ça, les gens l'ont bien compris. Donc c'est vraiment le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en plus, en particulier sur le bien-être, on a quand même une culture sociale. On est quand même un pays qui a déjà qui aime le luxe, le bien-être, la gastronomie. Donc on a cette appétence-là naturellement, j'ai envie de dire, dans la culture française. On a une culture sociale importante et le bien-être au travail, c'est quand même un sujet qui est fédérateur du patronat jusqu'au syndicat.
Alors, on est d'accord, c'est fédérateur, mais aujourd'hui, ce dont on parle, c'est du mal-être au travail. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans les sujets qui intéressent les plus de gens, vous avez burn-out, suicide en entreprise, donc on a quand même eu les affaires Orange, mais la Poste, toutes les grandes restructurations. Et aujourd'hui, on parle de salariés qui sont en suppression, à qui on demande d'avoir des objectifs, d'être polyvalent. Donc, vous voyez, on ne parle pas trop de ce bonheur au travail. Vous arrivez comme un ovni.
Alors, je ne sais pas si on arrive comme un ovni, je pense qu'il y a une vraie appétence aujourd'hui sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le mal-être et le bien-être. Et en fait,
regardez, la thématique du burn-out, elle est vraiment, en 3 ans, elle s'est imposée. Et c'est-à-dire que les gens, ils arrivent, tiens, je fais un burn-out. Il y a 3 ans, personne ne parlait de mal-être au travail.
C'est vrai, mais donc il y a une prise de conscience. On constate cette prise de conscience. Et la façon dont on adresse cette prise de conscience, il y a deux manières. Soit on se dit, on va corriger le mal-être, soit on va se dire on va aller vers le bien-être. Le mal-être, c'est quelque chose qui coûte. Le bien-être, c'est quelque chose qui apporte. Par exemple, le mal-être, si vous regardez l'Organisation mondiale du travail va vous dire le mal-être coûte 3% du PIB en France. Alors que le bien-être va apporter des bénéfices. Le bien-être va apporter des bénéfices économiques, va apporter des bénéfices humains, va améliorer la santé, va changer les mentalités. Donc ça va au-delà de la correction du mal-être. On peut se dire, soit on se limite à amener des actions correctives sur le mal-être, ce qu'a pu faire un Orange quand il y a eu sa vague de suicide au départ, soit on se dit on va aller au-delà et on va rechercher le bien-être, on va chercher à innover, on va disrupter, on va aller au-delà de ça. Et ça, c'est ce qu'on cherche à apporter avec l'apport de la technologie.
D'accord. Et ça, c'est les managers. C'est aux managers de décider, enfin, c'est aux chefs d'entreprise et aux managers qui sont là pour appliquer les politiques d'entreprise.
Alors, c'est les deux. C'est les deux. Il faut qu'il y ait la prise de conscience. Les managers vont avoir le budget. Ils vont avoir l'impact économique. C'est eux qui vont être en capacité d'acheter et d'investir. Mais c'est les salariés qui doivent commencer à prendre conscience. Il y a un grand nombre même de solutions dans la Happy Tech qui sont gratuites pour les salariés et qui se personnalisent ensuite de façon payante aux entreprises. Donc, si les salariés se saisissent aujourd'hui de ces outils et disent, on voit la qualité de cet outil, on voit la nécessité de l'utiliser. D'ailleurs, on l'utilise et on voudrait, à travers les syndicats, les CE, etc., on voudrait le porter au sein et au cœur même de l'entreprise. C'est des choses qui peuvent se faire. Donc, c'est dans les deux sens. C'est une prise de conscience, effectivement, du corps managérial, mais c'est aussi à chaque salarié de saisir cette question, notamment en début d'année, avec les bonnes résolutions qu'on peut prendre. C'est le moment de se saisir de son bien-être au travail et d'être proactif et d'amener des solutions.
Alors, selon le métier, la plupart des gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas comment évaluer leur satisfaction au travail. Comment est-ce qu'on sait finalement si on est heureux ou pas au travail? Comment est-ce qu'on on l'évalue? Quels sont les critères qu'on prend en compte?
Alors là, je vais être très humble sur la question parce que c'est une vraie question de savoir comment est-ce qu'on évalue le bien-être. C'est tellement une vraie question.
Mais au travail, par exemple.
Au travail, en particulier. Ben non, alors, il y a deux façons.
En toute objectivité, je veux dire.
Il y a deux façons de répondre. Il y a son ressenti, il y a des éléments factuels. Est-ce qu'on est souvent absent? Est-ce qu'on a envie de venir au boulot le matin? Est-ce qu'on a envie de rester chez cet employeur où on se dit non, à terme, j'ai pas d'attachement personnel vis-à-vis de mon employeur? C'est le fait de me dire, est-ce que je sens que je suis efficace ou pas au travail? Mais tout ça, c'est des éléments assez subjectifs, mais qu'on peut ressentir. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi des éléments plus objectifs. Et les éléments plus objectifs, c'est une vraie recherche scientifique sur le sujet. Aujourd'hui, on a monté un partenariat avec l'ESSEC Business School pour monter une chaire d'enseignement et de recherche Happy Tech. Et dans le cadre des recherches avec des enseignants-chercheurs et des scientifiques qu'on prend et les publications qui vont être amenées dès cette année à être publiées, c'est de se dire comment factuellement, on mesure le bien-être au travail. Et là, je n'ai pas le fond scientifique suffisant pour vraiment m'étendre sur la question, mais tout ce que je vous ai dit de manière subjective, ça se teste, ça s'expérimente et ça amène des critères. Je sais qu'il y a des chercheurs au CNRS qui ont commencé à réfléchir à la question, avec qui des startups d'ailleurs de la Happy Tech travaillent. Donc, c'est vraiment des sujets aujourd'hui où il y a une vraie recherche scientifique, pas forcément de publications extrêmement abouties, qui peuvent dire factuellement voilà la meilleure façon de mesurer, mais on a aussi plein de startups dans la Happy Tech qui
le test genre magazine où êtes-vous heureux au travail.
On a des startups dans la Happy Tech qui le font, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des questionnaires ouverts aux salariés. Les questionnaires vont pouvoir être remplis directement par les salariés. Ça va générer une note, donc plus ou moins factuelle en fonction de la qualité scientifique des questionnaires qui sont derrière. Mais le test magazine, c'est plusieurs startups le proposent aujourd'hui, permettent d'agréger des tableaux de bord qui sont ensuite partagés ou non avec l'entreprise pour chercher à s'améliorer. Donc c'est cette collecte de données plus ou moins scientifique, cette capacité à l'analyser et à la factualiser pour que l'entreprise puisse en tirer des enseignements. Là, on a plusieurs startups dans notre boîte à outils qui le proposent aujourd'hui avec chacun une proposition de valeur un peu différente.
Bon, les managers qui rendent heureux, c'est inné ou ça s'apprend? Parce que là, vous êtes en train de dire, quand même, puisque vous parlez de boîte à outils, donc ça veut dire que s'il y a une boîte à outils, ça veut dire qu'il y a des outils et qu'il y a des choses qu'on apprend. C'est pas inné d'être un bon manager?
Non, c'est pas. Après, il y a des gens qui ont cette appétence un petit peu naturelle à être manager et à s'intéresser aux gens et à l'être humain. Je ne suis pas sûr que le manager traditionnel, il a été formé pour s'intéresser à l'être humain d'abord. Il s'est intéressé avant tout au résultat.
Est-ce qu'on appelait avant le petit chef ou le...
Bah, le petit chef, franchement, ça va dépendre des entreprises, mais le manager traditionnel que j'ai pu rencontrer le plus souvent n'est pas forcément un manager qui s'intéresse d'abord à l'être humain, on va être très clair. Mais il en existe. Il y a des managers, moi j'en connais un particulièrement chez Microsoft, qui a cette appétence naturelle là-dessus, qui est assez incroyable et qui va mettre l'être humain avant toute autre chose. Et qui va passer par le développement de ses collaborateurs pour faire grandir l'entreprise. C'est un bon modèle. Moi, c'est quelque chose qui m'a personnellement très, très fortement inspiré. Il s'appelle Thomas Kerjean. S'il écoute, je le salue. Et du coup, il est...
Bon, si vous voulez travailler chez Microsoft, c'est bon, là. Vous validez votre entretien d'embauche, là.
Mais du coup, c'est vraiment inspirant parce que c'est clé. Et les outils... Bah, quand on a du mal à s'inscrire dans une démarche ou à savoir comment y aller, bah, prendre des outils et les suivre un petit peu pour grandir, c'est un super moyen. Et c'est ce genre de démarche-là qui va inspirer des outils de la Happy Tech et qui va nous permettre, en les mettant en place, bah oui, et là vous avez raison, d'apprendre pour tous ceux, et ils sont majoritaires, pour qui c'est pas forcément naturel.
Bon, si vous en avez marre de votre soirée karaoké, je ne vise personne, de votre soirée laser game, je ne vise personne non plus. Vous savez, ce truc en fin d'année que vous êtes obligé de faire avec tous les collègues parce que sinon on va dire que vous n'êtes pas corporate. Eh bien, vous avez des outils si vous proposez des soirées un peu qui créent des liens.
Bah, et oui, on a des outils, par exemple, je reprends l'exemple du Commit, que forcément je connais le mieux, mais avec Commit, vous pouvez dire, bah, demain, je veux organiser un laser game, mais je veux y aller avec des gens qui ont vraiment envie d'y aller avec moi.
Ah oui, c'est ça, parce que vous savez, en plus, déguisé, c'est les trucs mais que vous subissez, c'est la honte à l'international.
Mais c'est ça, mais du coup, il y a des gens qui aiment ça, et peut-être même dans votre entreprise, mais vous ne les connaissez pas encore. Mmh. Et le but, ça va être de dire à Commit, moi, je veux faire un laser game la semaine prochaine, mercredi, par exemple, et Commit va trouver les gens qui ont cette affinité, va les inviter pour vous, va même vous réserver le laser game qui plaira au plus grand nombre et va vous dire bah, allez-y, faites-le. Et quand on peut faire ça grâce à la technologie, parce que là c'est vraiment l'intelligence artificielle qui permet de trouver les bonnes personnes, le bon lieu, le bon moment et de matcher tout le monde ensemble. Donc quand vous voulez faire ça pour un laser game, vous pouvez faire ça pour aller déjeuner, pour aller boire un verre, pour aller courir après le travail, pour aller à la salle de sport, pour faire un karting, un escape game, absolument ce que vous voulez. Et c'est ça la force de la technologie et de l'outil technologique, c'est de bypasser, donc de passer au-delà vraiment de l'outil et de la technologie pour se concentrer sur ce qui a de la valeur, faire l'activité avec des gens qui aiment ça comme vous, avec qui vous avez des affinités, et créer ces fameux liens humains. Parce que quand vous partez d'une entreprise, quand vous changez de job ou quand vous revenez 20 ans en arrière, vous vous souvenez pas forcément de l'activité que vous avez fait au bureau, mais vous vous souvenez des gens que vous avez rencontrés, avec qui vous avez gardé des liens. Et ça, c'est beaucoup plus important.
Et les photos qui vous les rappellent.
Déguisés au laser game.
Voilà. Est-ce que la technologie aujourd'hui arrive à détecter, en tout cas à faire des propositions sur ce qu'attendent les gens? Par exemple, là on parle d'activité, mais est-ce qu'on arriverait aujourd'hui à dire en fait finalement ce qu'attendent les gens qui travaillent avec vous, ça serait d'aller au parc Astérix ou n'importe quoi, voyez? Est-ce que ça, on arrive à détecter les envies des gens?
En fait, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, c'est pas forcément à détecter très très bien ce que les gens aiment. Les envies des gens, c'est ce que les gens aiment faire. Mais on arrive à mieux détecter ce que les gens n'aiment pas faire. Et ça a un côté intéressant parce que quelque part, vous voyez, si je reprends l'exemple du restaurant, si vous dites je vais aller déjeuner au restaurant, vous pouvez aimer un vie différemment le japonais, le chinois et le coréen, par contre détester l'italien. Eh bien, il vaut mieux savoir que vous détestez l'italien et que potentiellement vous aimez à des niveaux différents le japonais, le coréen et le chinois. Et donc vous emmenez au japonais, au coréen, au chinois en fonction de l'appétence du plus grand nombre pour avoir une assiette de personnes qui est plus grande et à matcher avec un maximum d'affinité. Mais surtout ne pas vous envoyer à l'italien. Donc c'est ça qu'on arrive à faire aujourd'hui. C'est à détecter surtout ce que vous n'aimez pas pour éviter la mauvaise expérience et favoriser autant que possible la meilleure expérience.
À qui s'adresse donc votre projet ?
Aujourd'hui, la Happy Tech, ça s'adresse à plusieurs personnes au sein d'entreprises, aux salariés d'abord, qui veulent se saisir, dans le cadre de leur bonne résolution 2018, du bien-être au travail, et qui veulent amener cette appétence-là. Donc il faut venir regarder notre catalogue labellisé, choisissez les solutions, testez-les et faites-en la promotion. Ça, c'est une première personne. Il y a évidemment dans l'entreprise différentes personnes, les RH, les ressources humaines, parce que souvent c'est là quand même que la personne en charge du bien-être est, les personnes en charge de la qualité de vie au travail, les personnes en charge des affaires générales, donc des bâtiments, les décideurs, les patrons, très important, et puis de plus en plus le marketing. Alors pourquoi le marketing? Ça peut surprendre, mais parce que comme la Happy Tech, c'est et un catalogue de solutions et un label avec lequel on fait des partenariats, sur lequel on peut communiquer, les entreprises qui aujourd'hui décident d'investir fortement dans cette thématique et veulent d'ailleurs se différencier par rapport à ça, ont aussi besoin de communiquer dessus. Et si elles, dans leur politique, elles se disent on va s'appuyer sur les solutions de la Happy Tech, on fait des partenariats et on communique avec elles dessus pour les valoriser. Donc on
t'adresse aussi à des gens du marketing. Regardez comment je suis une bonne entreprise, je fais ça, je suis garant du bonheur de mes salariés.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire que comme vous êtes une entreprise qui investissez, pour qui ça a une importance réelle pour vous, vos salariés et leur bien-être, et d'ailleurs vous allez le digitaliser en vous appuyant sur des solutions éprouvées qui sont dans notre catalogue, et ben on va pouvoir monter un partenariat en disant, bah, regardons ensemble comment communiquer, parce que le fait de communiquer, bah, notamment pour les jeunes nouveaux talents, ça peut vous attirer plus de jeunes nouveaux talents aujourd'hui que d'autres, ça vous permet de valoriser l'image de votre entreprise, etc. Donc, bon, mais on le fait pas avec n'importe qui.
Vous parlez de catalogue, rassurez-moi, c'est pas le catalogue des trois Suisses.
Non. Aujourd'hui, on a une quinzaine de solutions dans le catalogue. On a plus d'une.
C'est un catalogue virtuel.
Alors, c'est un catalogue virtuel. Ouais. C'est un site internet. Vous pouvez y aller. C'est happytech.life. Vous allez. Le catalogue est pas encore en ligne, mais il le sera très prochainement. Aujourd'hui, on a un catalogue.
Ça, c'est bonne résolution 2018, vous voyez. Oui. Mettre le catalogue en ligne.
Mais rendez-vous compte, le collectif existe depuis septembre, le comité international depuis novembre, et on a déjà agrégé, on a plus d'une centaine de startups qui souhaitent adhérer. On a vraiment une dynamique incroyable. On est en train de lancer Montréal, Berlin, Londres en parallèle avec cette émulsion. Donc effectivement, on a un petit peu de retard parfois, nous-mêmes, sur les outils technologiques, mais on va le rattraper très vite.
Bon, moi j'aimerais bien vous entendre un petit peu, partager votre expérience sur le bonheur au travail. Peut-être que vous êtes dans une entreprise qui innove, on parlait d'innovation, qui justement est en pointe sur et qui s'intéresse au bonheur de ses salariés. Dites tout ce que vous avez fait à 01 et puis de tout contre-proposer là, le laser game, moi j'en peux plus. Et le karaoké avec Dider, c'est épouvantable. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ça y est, on a mesuré que le bien-être au travail, c'est reconnu comme étant un des facteurs de productivité, de loyauté, mais aussi de créativité. Mieux les gens sont en entreprise et plus ils sont efficaces, plus ils sont créatifs, meilleurs ils sont. On parle du bonheur au travail en ce début d'année avec Samuel Métias, qui est porte-parole et fondateur du collectif Happytech. Donc vous nous avez parlé un petit peu de Happytech. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, concrètement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous apportez?
Alors concrètement, on apporte vraiment des solutions, c'est-à-dire des outils digitaux qui sont labellisés, donc éprouvés selon des critères pour être sûr de leur maturité et qu'on va mettre à disposition des entreprises, petites et grandes, pour concrétiser, améliorer le bien-être au travail. Donc on a plusieurs types de solutions. On a des solutions qui vont aller sur le terrain des relations, on a des solutions qui vont aller sur le terrain de la mesure et puis d'autres qui vont aller sur le terrain de la santé. Et donc c'est souvent des solutions qui sont proposées par des startups, mais pas que, c'est-à-dire que si demain...
Le collectif des startups qui sont autour de vous, ils sont tous dans des secteurs d'activité et chacun d'entre eux apporte la solution sur laquelle est compétente, c'est ça?
Exactement, apporte sa solution et qu'on labellise, c'est-à-dire qu'en fait, pour essayer d'expliquer, ce qui se passe, c'est que vous adhérez d'abord au collectif, donc en adhérant à l'association et au collectif, bah, vous rentrez dans un écosystème, vous venez à des événements, vous partagez avec les membres, etc., donc on crée l'émulsion et puis vous dites, bah, à un moment, moi, ma solution, que je sois une start-up, c'est très souvent des start-up, mais si je suis une grande entreprise qui a une solution portée là-dessus, pourquoi pas aussi? Moi, ma solution, j'aimerais la mettre au catalogue. Et à ce moment-là, on va regarder si ça correspond à un certain nombre de critères, relativement simples mais importants, pour être sûr de la maturité. Par exemple, est-ce que effectivement ça amène du bien-être? Sinon, ça n'a rien à faire là. Amener du bien-être, c'est bien, mais il faut aussi que ce soit avec une innovation technologique, sinon on n'est pas happy tech.
Donc, d'accord, c'est pour ça que vous dites la sophro, le massage à la place, c'est pas votre truc.
On peut avoir des sophrologues dans le collectif, c'est pas un problème, parce qu'ils peuvent être prescripteurs de solutions, ils peuvent s'appuyer dessus, mais s'ils n'ont pas de support technologique ou d'innovation technologique derrière, non, ils n'en sont pas dans le catalogue.
Donc vous, pour vous, il y a quand même une innovation technologique, c'est la dimension qui est quand même fondamentale et qui vous différencie de tout ce qui
existe
déjà.
Complètement, il y a plein de choses qui se lancent autour du bien-être. Nous, on est une boîte à outils technologiques innovante, c'est extrêmement important. On s'assure aussi que les solutions qui sont labellisées sont suffisamment matures, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été vendues au moins à un client, ou bien qu'elles ont été déployées à grande échelle, c'est-à-dire qu'elles sont déjà en production et qu'elles ont la maturité suffisante pour atteindre la promesse qu'elles prononcent. Et puis, on s'assure aussi qu'au moins un client témoigne favorablement des bénéfices de cette solution. Ouais. Soit publiquement, parce que certains ont des témoignages publics, soit de manière plus privée vers le bureau de la Happytech, mais qui est un témoignage, parce que ça assure que effectivement la solution a atteint les objectifs.
Ça marche.
Exactement. On est certain que ça marche. À partir de là, vous êtes dans le catalogue et vous êtes proposé à l'ensemble des entreprises, partenaires ou non d'ailleurs, et vous pouvez afficher pour la solution le fait que vous êtes une solution officielle Happytech.
D'accord. Mais alors, vous parlez de monde digital, tout ça, et si vous n'êtes pas un geek, parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont pas du tout geeks.
Alors, vous n'avez pas besoin d'être geek.
Dans les entreprises, vous ne pouvez pas vous assurer de qui maîtrise ou pas. Enfin, il y a des gens qui ont un rapport avec les nouvelles technologies, qui s'en méfient, qui s'en éloignent.
C'est vrai. Mais c'est souvent des solutions très simples. Le bien-être n'a rien de complexe en soi. C'est souvent des applications. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone, un téléphone connecté sur lequel il peut installer une application. Et 99% des solutions du catalogue sont accompagnées d'au moins une application, si ce n'est d'un objet connecté ou d'autres chose. Donc rien qu'avec l'application, rien qu'en la téléchargeant et en l'utilisant, bah vous prenez déjà en main votre bien-être et vous commencez à le concrétiser. Nous, on a vraiment voulu apporter ça. Parce que quand on regarde le marché du bien-être, les outils digitaux, le digital, c'est l'épaisseur du trait. Ça se voit pas. Il y a très peu de dépenses vers la digitalisation du bien-être aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs. Si vous regardez les commerciaux, par exemple.
Alors, dans le monde médical, par contre, ça explose. Alors, on va dire que finalement, il y a énormément d'applications qui arrive.
Il y a énormément d'applications dans le médical, oui. Mais pas d'applications qui vont apporter du bien-être dans le médical, il y en a moins. Mmh. Il y a beaucoup de digitalisation du corps médical, de l'hôpital connecté, etc.
Ouais.
Mais dans le bien-être, donc le quotidien, le constant, parce que le bien-être, c'est pas seulement 3 jours dans l'année, c'est vraiment avoir quelque chose de constant tout au long de l'année. Mmh. Et ben là, on a beaucoup moins de choses. Mais on en a. On a par exemple une start-up qui s'appelle Coach for Eyes, qui est une start-up qui va mesurer avec une caméra votre position par rapport à un écran et vous envoyer des alertes en vous disant là, vous êtes resté trop longtemps, là, vous devriez changer de position pour le meilleur confort de vos yeux. Avec des chercheurs, s'ils sont incubés à l'Institut de la Vision, etc. Et on a une start-up qui s'appelle MyBrain, qui vient de gagner le prix innovation au CES de Las Vegas, qui est un casque connecté qui mesure les ondes cérébrales pour vous apprendre à déstresser et à vous reposer au travail. Donc à faire des micro-siestes, des micro-repos, ce genre de choses, sur la base des ondes cérébrales. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc on a aussi des start-up qui vont aller sur l'aspect médical, mais dans le but du bien-être, pas du soin.
Mmh. D'accord, donc là il faut un casque. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux finalement ?
Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ?
Dans toutes vos solutions ?
Alors on a des solutions qui fonctionnent très très bien sur plein de choses. Tout ce qui va être revu complètement des liens et des relations entre les gens, c'est-à-dire connecter les gens pour faire des activités, ça fonctionne très très bien. Revoir les espaces d'activités, par exemple les cantines. On a une start-up qui s'appelle UDI, qui revoit complètement les cantines dans les entreprises en faisant des espaces d'activités tout au long de la journée, pas seulement le midi, avec plusieurs services, etc. Et qui revoit complètement d'ailleurs aussi leur design, hein, leur forme. Donc ça, c'est important. On a tout ce qui va être autour de la santé. Ça marche très, très bien. Tout, la santé, effectivement, ça explose. Et donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien. On a tout ce qui est aussi autour de la conciergerie connectée. On a une start-up comme 4 épingles qui fait de la conciergerie connectée.
Alors, c'est quoi? Parce que tout le monde parle de conciergerie en ce moment avec l'explosion des conciergeries. C'est quoi une conciergerie?
Alors, une conciergerie, c'est un espace dans lequel vous allez avoir des services que vous avez normalement dans les petits commerces autour de chez vous et qui va être directement intégré dans l'entreprise. Par exemple, le pressing. Vous, au lieu d'aller au pressing, vous allez l'emmener à la conciergerie. Ils vous les chocolats de fin d'année, ils vont venir vous les proposer. Le photographe pour prendre des photos d'identité. Enfin, tout type de services en fait, du quotidien qui vont être apportés au sein de l'entreprise parce que vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant la fermeture des commerces, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses qui est fait. Souvent, c'est un espace dédié avec un local dans des grandes boîtes ou dans des grands bâtiments. Et des startups comme 4 épingles vont complètement dématérialiser ça en mettant des casiers connectés, mais avec une application, en ne prenant plus d'espace et en mutualisant des outils à plusieurs entreprises, des services pardon à plusieurs entreprises. Mmh. Donc quelque chose qui est extrêmement bien perçu et qui fonctionne d'ailleurs très très bien.
Vous vous adressez à quel type d'entreprise? C'est des grandes, des petites entreprises? Parce qu'il y a des petites entreprises. Là j'ai l'impression que ça parle quand même aux entreprises avec 50, 100, 200 salariés.
Alors ça parle à tout le monde en fait. C'est vrai que d'une start-up à l'autre, d'une solution à l'autre, certaines solutions vont être plus adaptées à des grandes entreprises, d'autres plus adaptées à des entreprises de taille intermédiaire. Par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Liti, une start-up dans l'événementiel, qui s'adresse à tout ce qui est métier d'organisateur d'événements, parce que c'est le troisième métier le plus stressant au monde. Et cette start-up-là, elle va beaucoup adresser des petites entreprises, autant que les grosses, mais aussi les petites, parce qu'elle va complètement digitaliser, dématérialiser l'organisation. Donc, en fonction de la solution, c'est plus ou moins grand. C'est vrai qu'il y a des solutions qui vont s'épanouir, on va dire, plus dans des très grandes entreprises, et d'autres qui vont être effectivement plus efficaces, peut-être, sur des petites et moyennes entreprises. Mais le bien-être est partout, donc les solutions s'adaptent quasiment à toutes les situations aujourd'hui.
Organiser des événements, c'est stressant.
C'est extrêmement stressant, les études le montrent. C'est le troisième métier le plus stressant au monde, apparemment.
Et donc, quels sont les deux premiers?
Je les ai plus en tête.
Animateur de radio, non?
Un animateur de radio, je ne crois pas. C'est plutôt cool, l'animateur de radio, il paraît.
Le direct peut être stressant, vous savez, c'est parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Voyez, mais
on va vous proposer des solutions pour ça. Alors,
pas, comment conducteur de TGV, ça doit être stressant finalement.
Conducteur de TGV, ça doit être. Mais il y a pas mal de métiers en fait qui sont. Alors, il y a les métiers pénibles, il y a la pénibilité, et puis il y a vraiment le métier qui stresse parce que ça amène en. Parce que organiser un événement, il n'y a pas forcément une pénibilité humaine directement, mais il y a un stress inhérent à l'organisation. Donc c'est un peu différent entre. Il y a des métiers qui sont à la fois pénibles et stressants. Hein. Mais justement, c'est aussi pour ça que c'est un vrai sujet fédérateur, le bien-être au travail, puisque du patronat qui va chercher peut-être quelque chose de plus, une dimension plus économique, aux syndicats qui ont peut-être naturellement plus s'intéresser à l'être humain et à la valorisation de l'être humain, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve.
Attention, hein, on ne va pas vous faire de vous des gens plus heureux au travail pour que vous travailliez plus.
Ah, c'est pas forcément
travailler. Est-ce que c'est un risque, ça, de dire, finalement, voilà, c'est un écran de fumée. On vous fait croire que vous êtes plus heureux pour vous faire travailler plus.
Alors, on va pas forcément travailler plus, on va travailler mieux. C'est le principe de la productivité. Sur un même temps de travail, vous allez être jusqu'à plus de 30% plus productif parce que, effectivement, vous allez connaître plus de monde dans votre entreprise, vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez être plus alerte, etc. Donc, c'est l'amélioration de la productivité, c'est pas l'augmentation du temps de travail. Mais enfin, imaginez 30% de productivité en plus, si on les atteint, comme le disent les grandes études, c'est un trimestre de plus pour une entreprise.
C'est mauvais pour le chômage, hein.
C'est mauvais pour le chômage. Je sais pas si tout le monde est heureux.
30% de productivité en plus, c'est énorme. Si les gens pouvaient être sur leur temps de travail, ils travaillaient mieux, tant mieux.
C'est l'idée. Et après, parce qu'il y a toute l'émulsion, il y aura aussi beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat et de belles idées qui vont arriver. Donc je ne sais pas si c'est mauvais pour le chômage. Mais en tout cas, c'est travailler mieux et se sentir mieux. Et ça, c'est absolument clé. Après, ça n'empêche pas ce qu'on a appelé en anglais le happy washing, c'est-à-dire tout ce qui va être des mensonges ou des fausses idées qui vont être reçues autour de ça. Et des gens qui vont chercher à en profiter aussi, en sortant une solution qui n'a pas de valeur, en cherchant à la vendre, en disant n'importe quoi pour essayer de faire du bruit, et ça dessert. C'est aussi pour ça que c'est un label avec des critères qui nous assurent de la qualité des solutions.
Voilà, ce que vous proposez, c'est pas le fun en entreprise.
Non.
C'est pas ça.
C'est pas le fun en entreprise.
C'est pas la teuf en permanence.
Non. Même si j'aime beaucoup la fête, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de trouver des choses concrètes qu'on met entre les mains de chacun qui permettent de se sentir mieux petit à petit au travail dans une démarche globalisée. C'est pour ça que c'est une boîte à outils et que ça remplace pas la réflexion autour d'une démarche bien-être. On a des partenaires de la Happy Tech qui sont des cabinets de conseil et des grands cabinets de conseil parce que être conseillé sur la meilleure façon de mettre une démarche de bien-être et de qualité de vie au travail dans une entreprise, c'est une chose. L'outiller, c'en est une autre. Avoir des commerciaux de qualité et efficaces pour aller vendre, c'est quelque chose. Avoir un CRM, c'est-à-dire un outil pour gérer la totalité des leads commerciaux, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est quoi l'outil qu'on donne à tous ceux qui gèrent le bien-être au travail pour qu'ils puissent s'appuyer dessus? Il n'y en a pas, et nous, on a vocation à être la boîte à outils de ces outils qui vont permettre de s'appuyer dessus.
Mais qu'est-ce que la technologie apporte de plus, justement, dans le bonheur au travail et dans les solutions que l'être humain ne pourrait pas apporter, par exemple? Qu'est-ce que vous apportez de plus, vous?
Alors, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'innovation technologique pour faire des choses que l'être humain ne peut pas faire naturellement. Les objets connectés, c'est un objet qui va nous permettre d'avoir une information qu'on ne pourra pas avoir naturellement. Je n'ai pas vos ondes cérébrales en direct en vous regardant là, alors que si je vous mets un casque, je vais peut-être avoir des informations et apprendre de ça. L'intelligence artificielle va nous permettre de créer des occasions, de créer des moments qu'on n'aurait peut-être pas fait naturellement ou alors de manière totalement aléatoire. Là, on va avoir l'impression de l'aléatoire en tant qu'être humain sur quelque chose de calculé grâce à une intelligence artificielle, mais qui ne va pas aller contre nous, qui va compléter, qui va nous créer des occasions. Donc c'est ce genre de choses qu'on veut amener. C'est étendre vraiment les capacités de l'être humain pour qu'en fait, on oublie, et c'est pour ça que ce n'est pas des réseaux sociaux, qu'on oublie la technologie, mais que ça nous propose des choses qu'on fasse concrètement entre humains, quoi.
Mais on aurait pu le faire, on aurait pu le trouver en tant qu'humain, c'est ça que je
on aurait pu le trouver, mais
ce que j'essaie de comprendre, c'est voir finalement quelle est votre valeur ajoutée. Moi je suis chef d'entreprise, je dis voilà, qu'est-ce que vous m'apportez finalement?
Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, j'en ai rencontré, des grandes et des plus petites, qui ont cherché à créer du lien en faisant ce qu'ils appellent des loto lunch, c'est-à-dire des déjeuners aléatoires, des choses un petit peu où ils vont dire on va mélanger les gens au déjeuner, on va leur proposer ou les obliger entre guillemets à se mélanger au déjeuner pour qu'ils puissent se rencontrer, etc.
C'est pas des déjeuners où on remplit des cases avec des chiffres.
Non, c'est pas des déjeuners remplis des cases avec des chiffres. C'est des, c'est des déjeuners où en fait on sait pas on va être à côté de qui au moment de déjeuner. On va rencontrer des gens comme ça. Et c'est fait complètement à la main. Les gens font ça à la main. Vous rencontrez, vous avez, il y a pas vraiment de critères. C'est complètement aléatoire.
Oui, des fois ça marche. Votre petit carton, vous a placé.
Voilà. Ouais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, c'est comme les placements dans un mariage. C'est pas toujours optimal.
Là, ça, c'est stratégique. Hein. Ça veut dire, c'est alors ça c'est le truc.
C'est ce que je dis, c'est pas forcément optimal. Et là, l'idée, c'est que la technologie va vous permettre, en fait, un, de vous soulager, puisque vous n'allez pas le faire à la main, la technologie va le faire pour vous, et deux, d'optimiser ces moments-là, en optimisant des personnes où, a priori, grâce aux données, on sait que c'est des personnes qui ont de bonnes chances de s'entendre. Donc, on apporte de l'optimisation et du gain de temps, puisque vous, au lieu de le faire à la main, bah, c'est fait de manière automatisée. Et du coup, ce qui est le plus important, c'est bien le déjeuner. Et on se concentre là-dessus et on a de meilleures chances de passer un bon moment au déjeuner.
Et là, vous allez me dire, et puis en plus, non seulement on place les gens, mais en plus on réserve votre table.
Exactement. Et là,
vous me dites, finalement, vous n'avez plus rien à faire.
C'est l'idée, déporter la logistique, en fait, déporter tout ce qui est chiant sur la technologie et se concentrer sur ce qui est plus important. Imaginez demain, vous faites un déjeuner, vous êtes avec le patron qui déjeune avec le stagiaire qui vient d'arriver parce qu'ils ont des affinités en commun, mais vous disruptez complètement l'organisation. Vous n'êtes plus en train de vous dire, je vais déjeuner en fonction de qui est manager, qui l'est pas, ou dans quelle division de l'entreprise ou qui l'est pas. Est-ce que l'animateur de radio peut déjeuner avec la personne qui sert au self? Bah, c'est pas forcément, pourquoi pas, mais c'est pas forcément des mondes qui se rencontrent facilement. Alors que là, on va disrupter ça en disant, bah, on va mélanger les gens parce que ces deux personnes ont vraiment des affinités, elles aiment les mêmes choses, bah, elles vont se retrouver à déjeuner. Donc, on casse complètement l'organisation sur un moment, on casse complètement la hiérarchie sur un moment pour se concentrer sur quoi? Sur les affinités des êtres humains, l'être humain en tant que tel. Et là, vous changez complètement les relations dans une entreprise.
Bon, vous vivez de quoi alors? Expliquez-nous comment vous vous rémunérez.
Alors, les solutions du catalogue ont chacun un modèle de rémunération qui peut être différent, soit à l'achat, soit à l'achat pour une entreprise, soit gratuit avec de la publicité. Chacun a son propre modèle économique.
Alors, on a parlé des différents niveaux hein, qui pouvaient justement, les prescripteurs qui sont par exemple les salariés, les gens d'entreprise, eux, comment ils peuvent adhérer, s'inscrire et...
Voilà. Alors après, au-delà de ça, pour la Happy Tech en tant que telle, donc au-delà du catalogue, on a des membres, donc vous pouvez vous inscrire sur le site, déclarer votre intérêt, être contacté pour adhérer à l'écosystème français et à l'association française.
Donc là, il faut s'inscrire sur un site.
Vous allez sur le site happytech.life, vous avez un formulaire sur le site, vous le remplissez, vous dites si vous voulez en fait soit être membre, soit juste être informé, soit être partenaire. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Soit vous êtes membre d'un écosystème, ça ne vous autorise pas à utiliser le logo Happy Tech, ça ne vous autorise pas à dire que vous êtes Happy Tech, mais ça vous permet d'entrer dans un écosystème et d'interagir et d'échanger avec lui.
D'accord, vous recevez les informations.
C'est ça, vous recevez les informations, d'accord. Vous participez aux événements, vous rencontrez les gens, vous êtes
donc
dans
ça,
l'écosystème.
Ça, c'est gratuit.
Ça, c'est. Alors, c'est une association, donc c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher. Ça dépend.
Combien ?
Bah, pour un membre, une start-up, c'est 250€ par an.
Pour la start-up.
Pour la start-up.
Mais si je suis un individuel.
Un individu, c'est pareil. C'est un individu, c'est 250€ par an. Mais d'accord. C'est ce qui permet de faire vivre la communauté.
C'est mon ticket dans
c'est ça.
Parce qu'il faut bien vivre.
Il faut bien que l'association puisse organiser, etc. Donc ça, c'est vous rentrez dans l'écosystème. Après, il y a un deuxième niveau qui est le partenariat, où là, vous pouvez utiliser le logo, vous pouvez communiquer avec la Happy Tech, vous pouvez afficher le fait que vous êtes partenaire. Mais si vous êtes partenaire, ça veut dire que déjà, vous utilisez des solutions Happy Tech, hein, sinon on ne peut pas devenir partenaire. Ça veut dire aussi que vous avez un projet pour faire grandir l'écosystème, parce que nous on veut pas faire juste des partenariats économiques, on veut faire des partenariats qui ont du sens. Donc vous avez un projet avec la Happy Tech pour faire grandir tout l'écosystème et faire grandir le bien-être sur le marché, et à ce moment-là bah, c'est des partenariats économiques qui se négocient à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Est-ce que vous avez une application?
On n'a pas une application Happy Tech.
Il
n'y a pas de app Happy Tech, il y a plein de solutions avec des apps qui sont labellisées Happy
Tech.
Nous on a juste un site, et on a vocation à avoir un site et à avoir une plateforme communautaire sur ce site, mais on va pas aller au-delà de ça.
D'accord. Ça va très vite, hein. Vous imaginez où dans un ou deux ans? Vous voulez être qui dans un ou deux ans, par exemple, avec Happy Tech?
En fait, quand à VivaTech, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République, où je suis allé le voir.
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Ah, le fameux voyage à Las Vegas?
Non, pas à Las Vegas, à VivaTech à Paris.
Pardon, parce qu'il y avait eu ce fameux voyage à Las Vegas.
Non, pas du tout, rien à voir.
Il coûtait moins cher celui-là.
Là, c'était à Paris, c'était juste à côté.
Bon, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Et du coup,
le fauteuil de Manu, ah ben, il est parti.
Il avait un fauteuil ici
Oui, il y a le fauteuil, ce qu'on appelle le fauteuil Emmanuel Macron dans les studios de Beurre FM.
D'accord. Ouais. Voilà, c'était le. Là, il n'avait pas de fauteuil. On s'est vu.
Et donc, vous lui dites quoi?
Et donc, quand je le vois, je lui explique ce projet de la Happy Tech. Et là, il adhère. Il dit il faut faire de la France le leader mondial du bien-être. Et là, je dis waouh.
Être au travail.
Ouais. Et là, je dis waouh, sky is the limit, hein, c'est comme on dit dans les startups, mais enfin, quand même, c'est ambitieux, mais pourquoi pas? Et c'est vrai que ça nous a donné une impulsion. On s'est dit, voilà. Dès le lendemain, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est venue nous voir sur le stand. On a commencé à échanger avec son cabinet et on commence à travailler avec eux pour justement voir comment on peut faire. Et dans deux ans, moi, ce que je souhaite, c'est que ce modèle qu'on a d'abord lancé en France, qui est déjà en train de rayonner dans des villes comme Montréal, Berlin, etc., bah, que ce modèle-là, il rayonne partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a aussi un comité international, c'est-à-dire que cet exemple français, être leader du bien-être au travail, c'est soit une vision très napoléonienne de dire on va exporter nos solutions partout dans le monde, soit de se dire on a un modèle, on a construit quelque chose qui rayonne, et ce rayonnement-là, moi ce que je souhaite, c'est dans deux ans, c'est qu'il soit partout dans le monde, qu'on ait des happy tech dans toutes les villes, les grandes villes du monde, et que tout le monde cherche vraiment à fédérer autour de ce thème-là. L'idéal, c'est que en fait, dans deux ans, vous ne veniez plus parler du bien-être au travail, parce que ce sera devenu naturel. Tout le monde le fera.
Non, ça veut dire qu'on parlerait plus du burn-out. On parlerait que du bonheur au travail.
Oui, exactement. On réussirait enfin à définir ce qu'est le bonheur au travail.
Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui est central. Il y a ceux qui ont la chance de pouvoir aller travailler tous les jours, de se lever, pour qui c'est un plaisir. Voilà. Et puis, il y a ceux pour qui c'est pas un plaisir. Donc, c'est pour ça, c'est en ça que finalement, réfléchir sur ces questions du bonheur au travail et du bien-être au travail sont centrales. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, on rappelle votre site internet pour ceux qui veulent en savoir plus, Samuel Métias sur Happy Tech.
C'est happytech.life, L-I-F-E.
Bien, et demain, en parlant de Happy, nous verrons avec le chef Voilà si les cures détox, c'est de l'intox. À demain.